vient toucher, vous savez, c'est comme sur les nerfs, hein, tout d'un coup on touche quelque chose d'une épine là qui réveille d'autres choses. Après tout, on ne sait pas non plus ce qu'il a vécu. C'est pas rien la question de la confiance. Donc peut-être que pour vous ça vous paraît disproportionné, mais en tout cas la réaction est que lui ça l'a profondément blessé.
Oui.
Alors, on va continuer à se parler, Joséphine, après les infos de 23h, si vous le voulez bien. Ne raccrochez pas, tout de suite.
Merci.
RTL.
RTL, il est 23h. Toutes les infos qui comptent, c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Des chiffres très inquiétants. En entreprise, en 8 ans, le nombre de cas positifs à l'alcool et à la drogue a augmenté de 107%. Les travailleurs précaires et les intérimaires sont particulièrement touchés par cette hausse. La consommation de cocaïne connaît aussi un bond. 13 fois plus de cas positifs détectés en 2025 par rapport à 2017. C'est le résultat d'une cartographie nationale des consommations d'alcool et de stupéfiants publiée par Itilo. Air India le confirme ce soir, il n'y a qu'un seul survivant du vol qui s'est écrasé peu après son décollage ce matin en Inde. Le vol qui devait rejoindre Londres depuis le nord-ouest de l'Inde transportait 230 passagers et 12 membres d'équipage. Le tout derrière dernier bilan fait état de 265 morts. Ça signifie que 24 personnes ont été tuées au sol quand l'avion s'est crashé sur un centre d'hébergement de personnel médical. Sophie Jousselin, que sait-on des circonstances de l'accident ?
Eh bien, juste après le décollage, le pilote a lancé un appel de détresse et n'a plus répondu ensuite aux contrôleurs aériens. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit effectivement l'avion s'élever lentement, puis perdre de l'altitude. Il disparaît derrière des maisons. Ensuite, on voit une violente explosion avec des flammes et d'épaisses fumées noires qui s'élèvent dans le ciel. L'Agence américaine de sécurité des transports envoie une équipe d'enquêteurs qui aidera ses homologues indiens. Et puisqu'il y a des victimes britanniques et des experts anglais, les vont également se rendre sur place pour participer à cette enquête. Enfin, le constructeur américain Boeing a déclaré être prêt à assister la compagnie Air India. C'est la première fois que son long courrier, le 787 Dreamliner, est victime d'un crash. L'appareil qui s'est écrasé aujourd'hui en Inde avait été livré à Air India en 2014.
Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. Notez aussi que le leader indépendantiste kanak, Christian Tin, a été libéré. Il a quitté ce soir le centre pénitentiaire de Mulhouse. Sans faire de commentaires, interpellé il y a un an en pleine émeute en Nouvelle-Calédonie, il est soupçonné d'avoir appelé à commettre des violences. Lui continue de nier. Placé sous contrôle judiciaire, il a désormais l'interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie. La météo, demain des orages sur le nord-ouest du pays avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Elles vont gagner en fin de journée l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Des orages également sur les Pyrénées. Les températures le matin comptaient de 13 à 21 degrés du nord au sud. L'après-midi, on va dépenser les 30 degrés en moyenne, sauf en Bretagne et sur les bords de Manche. 22 degrés à Brest, 24 à Cherbourg, 31 degrés à Paris, 35 pour la maximale à Dijon et à Bourges. Et puis les courses demain, elles ont lieu à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 16, le 8, le 2, l'As, le 7, le 15 et l'outsider de RTL, c'est le 2, Hector de Bassière. RTL, il est 23h03, tout de suite parlons nous continuons avec vous, Caroline Dublanche.
Merci beaucoup, ma chère Aude. Et on vous retrouvera bien sûr à minuit.
À tout à l'heure,
à
Caroline.
Tout à l'heure.
RTL. Merci d'écouter RTL.
Laurent Deutsch sur RTL. Entrez dans l'histoire.
Demain, cap sur l'Écosse, au bord d'un lac, aussi mystérieux que profond, avec une ombre qui apparaît puis disparaît. Le monstre du Loch Ness, l'insaisissable créature, c'est demain à 15h dans Entrez dans l'histoire sur RTL.
Entrez dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France.
Ce vendredi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
22h, minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
se poursuit. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à 23h05 sur RTL. De l'écoute, des confidences, de l'émotion, du partage, de la solidarité aussi, grâce à vous qui partagez avec nous des moments de votre existence. Et à vous tous, fidèlement à l'écoute, qui soutenez, réconfortez les personnes qui appellent en envoyant vos SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, et en laissant vos commentaires sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Et nous vous retrouvons, Joséphine, merci beaucoup d'avoir patienté. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu notre échange jusqu'à présent. Voilà, vous vous sentez tourmentée parce que vous étiez dans une relation qui vous apportait beaucoup de satisfaction, ou après avoir eu des relations bancales, hein, pour reprendre votre expression, vous pensiez avoir trouvé quelqu'un pour faire un long chemin ensemble. Vous vous sentiez apaisée auprès de cet homme, et puis suite à deux événements, un appel que vous aviez passé d'un autre téléphone qu'il ne connaissait pas, ou vous faisiez passer pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, enfin on y reviendra, vous êtes fait passer pour quelqu'un d'autre, et il a fini par vous
Oui. Non, je ne m'étais pas fait passer pour quelqu'un d'autre. En fait,
c'est-à-dire, je vous connais, vous êtes plombier, vous étiez ensemble déjà.
Oui. Et c'était pour lui communiquer ce téléphone, puisque j'avais deux téléphones. Et c'est vrai qu'au départ, c'était dans ce but-là. Et le but, effectivement, c'était qu'il ait ce téléphone, mais que je l'ai taquiné un petit peu en lui posant ces questions.
Parce que pour qu'il vous réponde, j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est que l'échange était devenu quand même, vous l'aviez un peu cherché, un peu provoqué, pour qu'il vous dise j'ai quelqu'un dans ma vie. Vous avez quand même joué un jeu assez poussé de séduction.
Oui. Sans doute. Mais ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a duré dans le temps. Je veux dire, ça a duré petit quart d'heure.
Mais peu importe, ça pose question, ça. Enfin, on va y revenir. Ouais. Et puis alors, la deuxième chose, c'est vous lui aviez donc donné une somme d'argent, parce que votre compagnon est plombier, vous avez des travaux à faire chez vous. Et donc pour qu'il achète les matériaux, et puis un ami qui est venu, vous étiez témoin de la scène, et cet ami confie à votre compagnon qu'il avait envoyé de l'argent à Madagascar pour aider un ami dans la difficulté, puis qu'il a jamais revu son ami. Et à ce moment-là, vous nous confiez que ça vous a fait tilt, et que vous avez demandé à votre compagnon de signer une reconnaissance de dette, ce qu'il a très mal pris. Voilà, j'en en étais un petit peu resté là. Donc, vous deviez partir à Cannes pour fêter son anniversaire, ses 60 ans, avec des amis. Et là, il vous a dit qu'il ne souhaitait pas que vous veniez.
Oui.
Voilà, on en était là.
Eh ben,
c'était il y a combien de temps, ça?
Le week-end dernier.
Le week-end dernier, d'accord. Ouais. Donc, il y est là en ce moment à Cannes, votre ami.
Oui.
Vous ne l'avez pas eu depuis au téléphone?
Si, on s'est échangé. On a échangé par SMS.
Vous avez échangé des messages, d'accord?
Oui.
Et comment, quelle est la teneur de vos messages, enfin?
La teneur des messages, c'était surtout, lui m'a dit qu'il se sentait humilié d'avoir eu à subir ça. Moi, je lui ai répondu que l'humiliation, je la connaissais aussi, parce que j'avais parlé j'avais eu des autres relations avec lesquelles je n'avais pas discuté. Je me suis tellement projetée que j'avais parlé de lui, à mes amis, aux gens qui comptaient énormément pour moi, en leur disant, j'ai rencontré un vrai amoureux et je pense que je vais faire un bon bout de chemin avec lui. Je m'étais vraiment, vraiment projetée avec lui. Et là, je fonce dans le mur. Là, je tombe de l'étage.
Mais vous ne parlez pas de la même chose. Vous êtes dans votre déception. Et lui, c'est important aussi parce que quand on est comme ça sous le coup de l'émotion, chacun réagit. Ça fait réagir très vivement, hein, l'émotion. Et donc, on n'est plus à l'écoute de celle de l'autre.
D'accord.
Donc,
je suis d'accord.
Évidemment, là, vous êtes très déçu, mais c'est important pour arriver peut-être à dépasser cela et à se comprendre, de comprendre que lui s'est senti humilié.
Oui, je sais.
Voilà.
Je lui ai adressé mes excuses en lui disant que je regrettais ce que j'avais dit, enfin la réaction que j'avais eue concernant l'argent. Mais que oui, j'étais très déçue de son attitude. J'étais très déçue de la façon dont il me rejetait. Pour autant, lui m'a dit je vais faire les travaux chez toi parce que je sais ce que je t'avais promis. Donc je vais les faire.
Il est carré, hein. Il est clean.
Oui, 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 oui. Je sais. Il est carré.
Parce qu'il pourrait dire. Oui. Bon. Vous voyez, le problème, c'est que, en fait, vous vous sentez rejeté et lui aussi s'est senti rejeté, Joséphine.
Oui.
Et c'est là qu'il y a incompréhension. Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que dans vos. Puisque vous me dites que, enfin, d'ailleurs, vous en parlez à vos amis, vous sentiez bien avec cet homme, vous pensiez pouvoir trouver quelqu'un sur qui un peu vous poser. Dans vos relations passées, il y a eu des trahisons, il y a eu de l'infidélité, il y a eu. Enfin, vous avez été, vous me dites, dévastée. Qu'est-ce qui vous a tant dévastée dans vos relations passées ?
Ce qui m'a dévastée, c'était l'amour que je portais à certains hommes et que ça s'est pas. Que ça s'est fini de façon très brutale. C'est ce qui s'est passé.
Oui, ça peut arriver. Hein, c'est-à-dire que l'amour s'arrête, mais vous dites très brutal. C'est-à-dire, vous pouvez m'en dire.
J'ai été éjectée de la vie. J'ai été éjectée de la vie de ces personnes. La personne à laquelle je pense, c'est qu'il a mis un terme à notre relation. De façon assez brutale. Après, j'ai eu des autres relations, mais qui se sont terminées de façon douce, je veux dire, d'un commun accord. D'ailleurs, la dernière personne avec qui j'ai eu une relation, nous sommes toujours amis. Donc, enfin, oui, on se voit régulièrement parce qu'on a passé outre et qu'on s'est rendu compte qu'on avait des choses en commun, mais pas une relation de couple. Mais là, je suis en train de revivre, je suis avec ce qui se passe là, je suis en train de revivre la relation avec un homme que j'aimais beaucoup, beaucoup, avec lequel je m'étais beaucoup projetée aussi, et je suis en train de revivre la même chose.
Oui, voilà. Mais c'est ce qui c'est. Est-ce que vous. Vous êtes en train de. C'est important là, parce que comme c'est ce qui fait. Vous dites revivre quelque chose où vous vous sentez rejeté, mais quelque chose que malheureusement vous avez provoqué.
Pour le cas présent.
Oui.
Oui, bah bien sûr.
Parce que j'y reviens, Joséphine, ce n'est pas rien d'appeler quelqu'un, enfin d'appeler son compagnon ou sa compagne en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en poussant assez loin l'échange au point qu'il est soit. Vous voyez, il est d'ailleurs, il vous dit j'ai quelqu'un dans ma vie. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a comme si. Derrière ce jeu apparemment innocent, il y a quand même un besoin d'être assuré et de tester l'autre.
Oui.
Je te teste. Jusqu'où tu vas aller? Est-ce que t'es fiable? Donc, si... C'est-à-dire que là, à un moment, ça peut interroger du point de vue, vous voyez, quand te dire mais... Alors, si on est au début de la relation, bon. Mais déjà, c'est... ça peut faire naître des sentiments en soi-même, dire vous ne savez pas après tout quel est le vécu de cet homme. Parfois, ça peut être interprété comme une jalousie ou une jalousie excessive, une volonté, une façon d'exercer une forme de contrôle. C'est-à-dire, est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Est-ce que finalement, face à une opportunité, tu me tromperais pas? C'est pas rien, voyez. C'est pas, donc, c'est ça qui m'interrogeait. Je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez vécu de cet ordre-là et où effectivement, tout en étant bien avec cet homme, il y avait, ben, des peurs, des choses qui remontent, hein, qui peuvent remonter, malgré nous. Ça, on ne contrôle pas.
La peur de l'échec.
La peur de l'échec.
C'est bien ce qui est en train de se passer.
Et oui, vous savez, Joséphine, c'est ce qui est terrible. C'est que quand on a peur de l'échec, on s'engage dans la relation, on est sur le qui-vive, on est un peu suspicieux, parce qu'on a peur. Et la peur n'évite pas le danger, hein, c'est bien ce qu'on dit, mais on a peur, donc quand on a peur, on n'arrive pas à faire confiance. Et quand on a peur de l'échec, on peut le provoquer parfois. Alors, c'est pas forcément... Je me permets d'insister là-dessus, non pas pour vous accabler, évidemment, mais pour vous dire que peut-être, s'il y a un espoir par rapport à cet homme, c'est-à-dire que... Enfin, ou en tout cas, que au moins... voyez, parce qu'il vous dit d'ailleurs qu'il s'engage à faire vos travaux. Donc, il pourrait dire, moi, maintenant, c'est terminé totalement. C'est pour peut-être arriver à vous parler et dépasser ces blessures, il faut pouvoir entendre le point de vue de l'autre aussi. Et pas le balayer ou dire, c'est disproportionné, même si ça paraît... Mais voyez, pouvoir l'entendre, pour dire que... Sinon, chacun reste sur son quant à soi et donc finalement persuadé qu'il a raison et que c'est l'autre qui ne réagit pas bien. Vous, dans votre blessure d'être rejeté brutalement, pour des raisons qui vous paraissent pas appropriées, et lui s'est senti humilié parce que finalement... il pense que vous ne lui faites pas confiance. Donc, c'est... Comment ?
Ça semble évident.
Oui. Donc, à un moment donné... D'ailleurs, depuis combien de temps avez-vous une relation ?
Avec lui ?
Oui.
6 mois.
Oui, c'est encore récent. Donc, c'est le moment... Vous voyez, il ne peut pas y avoir de relation sans qu'il y ait confiance. Enfin, au moins... Vous voyez.
C'est ce qu'il m'a dit.
Eh oui. Mais oui. Or là, ces deux événements mis bout à bout l'amènent à douter. Ça ne veut pas dire que, voyez, qu'il n'a plus de sentiments, c'est-à-dire qu'il vous parle d'humiliation. Il s'est senti humilié. Parce que c'est toujours douloureux de se dire, tiens, là, et la question de l'argent, c'est toujours très épineux. Dans les
Je cas. Sais.
Voyez, c'est toujours quelque chose. Le coup de fil, ça aurait pu passer. Mais si on rajoutait à l'argent, c'est beaucoup. Donc, je pense que peut-être, il y a quelque chose à dire, puisque vous échangez quand même par SMS. Voyez, il y a... C'est-à-dire
oui,
que...
Là, il m'a quand même dit, là, oui. On a échangé là, sur les 4 jours. Donc, le dernier message, il m'a dit... Il m'a dit que les SMS qu'on s'envoyait le perturbaient énormément, alors qu'il était en vacances, que ça leur perturbait énormément.
Oui.
Que, comme vous l'avez justement dit, il se sentait comme lui le salaud de l'histoire. Et
oui, qu'il n'est pas.
Voilà.
Ce qu'il n'est
pas. N'est pas.
Il ouais. Mais voyez, vous êtes chacun enfermé dans vous êtes blessé pour des raisons différentes. Vous, ouais. vous dites, il me rejette. Et lui se sent rejeté aussi. Donc, à un moment, je pense qu'il faut pouvoir aussi entendre quand même les blessures. Et si vos messages le perturbent, ça montre bien que vous ne vous êtes pas trompé sur sur lui et sur le fait que lui aussi a investi beaucoup dans la relation.
Je suis particulièrement perturbée parce que ma première pensée, c'était de me dire, ben je vais choisir l'esquive, tant pis, je rencontrerai quelqu'un d'autre, mais j'étais pas envie, parce que j'ai pas envie que ça se passe comme ça, parce que je tiens à lui et que je pourrais dire, ben bon, tant pis, si ça n'a pas marché. Mais c'est pas ce que je souhaite. C'est pour ça que je suis perturbée, suis tourmentée.
Mais comme lui. Donc ça veut dire que vous voyez, lui aussi, cet homme, ça le tourmente aussi. Et ça le tourmente et il doit. Alors peut-être que là, il est en vacances. Il faut peut-être le laisser aussi. Oui. Vous voyez, un peu moins écrire ou alors parce que qui récupère. Il est avec des amis, même si bon, vous deviez les passer ensemble, mais ne en parler avec lui parce que ce temps finalement peut vous permettre de retrouver un peu d'apaisement. Et au regard de ce que vous avez vécu, qui était très fort, eh bien, c'est peut-être l'occasion de partir sur de nouvelles bases aussi. Mais ça veut dire des bases de confiance. Et c'est-à-dire reconnaître, peut-être en lui disant d'ailleurs que, alors je ne sais pas, après si, je ne sais pas comment vous le vivez, mais peut-être que vos histoires passées, vous savez, parfois on rejoue des choses, on répète des choses et que y a quelque chose qui a ressurgi d'une douleur, d'une peur d'être rejeté et qui à un moment vous a fait avoir cette attitude-là et que pourtant vous vous sentez pour la première fois très bien avec lui et que bon votre intention n'était pas de l'humilier. Je crois que c'est important aussi de dire cela. Et lui de son côté va pouvoir vous dire parce que c'est pas qu'il vous rejette. Pour le moment, il se sent, lui, il est blessé. Vous voyez, c'est différent. Il vous rejette pas comme ça sans raison du jour au lendemain. Vous voyez, c'est là où il faut pas et où il faut faire attention parfois à ne pas plaquer ses relations passées. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est judicieux et que c'est exactement ce qui se passe. Lui s'est senti humilié.
Oui, oui. Oui.
Et ça moi, je me sens rejetée.
Et vous, vous sentez rejetée. Donc évidemment, les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue. Et je crois que faire un pas vers l'autre, c'est-à-dire que si chacun reste sur sa position, il ne peut pas y avoir d'échange parce que l'autre ne se sent pas compris. Et dans la mesure de votre relation qui est quand même, vous voyez, ça s'est allé vite, cet homme, vous vous êtes investi, vous avez été présent quand il a été vous avez été présente quand il a été souffrant, lui, dans vos travaux, voilà, c'est symbolique aussi, il veut vous aider à construire.
Oui. Enfin,
on sent que ça, il y avait les bases d'une relation où chacun s'impliquait. Et puis il y a eu quelque chose, hein, vous savez, mais qui, à mon avis, n'est pas irrémédiable, dans la mesure où chacun peut entendre un peu du vécu de l'autre, du ressenti, sans chercher à se justifier, mais peut-être dire, bah oui, je m'en compte de votre côté, hein, je sais pas, c'est pas avec lui que je parle, mais dire, en tout cas, déjà reconnaître que. Le ressenti et dire c'était pas je ne voulais pas t'humilier voilà et je n'ai pas mesuré que mon intention n'était pas de te faire mal et peut-être qu'il y a des choses de votre histoire qui sont ressurgies voyez c'est peut-être une façon de dire voilà alors on va se tourner vers Paul parce que ça fait un moment qu'il me fait des grands gestes donc ça veut dire qu'il y a des réactions qui sont arrivées pour vous Joséphine on va les écouter ensemble.
Il y a Martine qui commence en disant « Vous ne comprenez pas la réaction de votre ami car vous voyez la situation de votre point de vue et non de la sienne. S'il est totalement sincère avec vous, vos réactions ont dû le blesser profondément, même si ce n'était pas votre but. » Il y a Moon aussi qui dit « Il ne doit pas payer pour les autres, c'est trop difficile à gérer pour lui. » Il y a aussi Béné qui croit bien qu'elle aurait réagi comme votre ami, surtout si vous avez fait ce que vous avez vraiment raconté. Peut-être que vous auriez pu lui dire que c'était une précaution qui vous protégeait tous les deux, mais sinon, comment interpréter la demande d'un écrit, sinon en étant profondément blessé ? Surtout, après le premier épisode, que manifestement, vous n'avez pas verbalisé ensemble, si c'est important. Avoir peur d'être blessé blesser ne justifie pas de blesser les autres. Et puis, je vais finir avec Pierre qui... pareil, hein, il dit, moi je serai à la place de votre compagnon, je le vivrai également mal. N'oubliez pas qu'il a peut-être aussi, lui, vécu des relations bancales.
Et oui,
c'est possible.
Et oui.
Le jeu du téléphone était très maladroit.
C'est le cas, en plus.
Et oui.
Ouais.
Que dire du bon de reconnaissance de dette? Ouais. Essayez de vous mettre à sa place, puis parlez-en avec lui, à tête reposée, avec un regard plus neutre. Apprenez à vous faire confiance. Ça vous permettra de lui faire confiance à lui.
C'est... sûrement vrai.
Voilà, en tout cas, il y a Christelle aussi qui dit, vous savez, personne n'apprécie d'être testé, et surtout pas en amour. Alors, il y a Florence, elle a un autre point de vue, elle dit, si vous écoutiez Julien Courbet, on l'écoute, pas toujours moi en direct, parce que à cette heure-là, on dort, mais elle dit, vous sauriez qu'il recommande de faire signer une reconnaissance de dette pour un prêt ou une avance, quelle que soit la somme et la personne, intime ou pas. Ben oui, évidemment, Julien, il a tellement de demandes de gens qui se font avoir, et il a raison de donner ce genre de conseils. Mais après, il n'y a que des cas particuliers. Bon, on espère en tout cas, ma chère Joséphine, que c'est bien que vous ayez pu un peu déposer là ce que vous aviez sur le cœur, que cette un peu mise à distance de lui, il est dans un côté avec des amis, voilà, va vous permettre aussi de voilà laisser un peu retomber les choses et de vous parler, parce que ça serait dommage. Et cet homme, il n'envoie pas tout balader. C'est quand même, il m'a l'air très carré et très fiable. Donc, ça serait dommage de tout saboter. Bonne chance, alors, à vous.
Merci, Caroline.
Au revoir, Joséphine. Vous pourrez nous donner des nouvelles. Au revoir.
Oui,
au revoir.
Je le ferai.
Avec plaisir.
Jusqu'à minuit 30,
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous. RTL.
Ce vendredi, jackpot record Euro-million de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Les pleurs que tu pleures sont inutiles, car tous les
Laurent Voulzy sur RTL, Paradoxal Système. Ça fait plaisir à Brigitte. Brigitte qui d'ailleurs confie enfin à Joséphine, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas pour sortir d'un blocage. Allez, on l'invite à le faire.
RTL. RTL Matin, 7h, 10h, c'est...
Des journaux complets pour tout savoir et surtout tout comprendre de l'actualité.
Et à 8h35, William Galibert éclaire notre quotidien avec Le Monde en Marche.
La Russie s'infiltre. Elle s'est infiltrée à l'école polytechnique, l'IX, l'un des fleurons de l'intelligence française. Les Russes ont essayé de s'emparer de leurs travaux. Ils ont visé les laboratoires.
Votre grande tranche d'infos et bien plus, c'est RTL Matin, 7h, 10h.
Ce vendredi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Avant d'accueillir Paula, qui est au 09 69 39 10 11.
Inès.
Ah, c'est Inès.
Oui, exactement.
Moi, je note. Voilà. Bon, alors, on accueillera Inès. Si on parlait podcast, mon petit Paul.
Ah, eh oui. Alors oui, exactement. Dimanche soir, de 21h30 à 22h30, j'animerai une émission qui s'appelle Parlons Podcast. Voilà.
Ça, alors voilà. Ça, c'est une grande nouvelle.
Oui, bah
donc
oui.
On va t'entendre, on se branche sur RTL.
Bah, tout seul, exactement.
À 21h30 dimanche soir. Et c'est toi qu'on va entendre.
Exactement, dans le grand bain. Oui, ah, oui. Oui, ouais, je fais un peu d'huile là. Cette semaine, je vous avoue que je fais pas le malin.
Ah, il était un peu. Il a un peu le trac.
Un peu
tendu.
C'est
bien, c'est bien, c'est normal. C'est normal. C'est une première. Et alors.
Qu'est-ce que c'est, Parlons Podcast?
Ben oui, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, je vais vous expliquer, évidemment.
De quoi s'agit-il?
Bien sûr. En gros, Parlons Podcast, c'est une émission qui vous fera découvrir à l'antenne les podcasts natifs, ceux qui sont. Que sur Internet,
oui,
ce que vous entendez pas à l'antenne, voilà. Donc il y a plein de podcasts. Alors, par exemple, Parlons Encore qu'on fait,
oui.
Il est pas diffusé à l'antenne, tout le monde le connaît pas. Et je vais agrémenter ça de petites interviews des animateurs qui font les émissions et qui
enregistrent les podcasts après.
Exactement.
Alors effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en direct,
bah oui,
qui écoutent RTL en direct, mais qui
on n'a pas téléchargé l'application RTL, par exemple.
Encore l'application RTL. Et donc, il n'y a pas toutes ces émissions, tous ces contenus que vous ne pouvez pas entendre sur l'antenne en direct, mais qui sont où on revient sur des histoires. Qu'est-ce que tu vas avoir?
Ah, bah alors, là, dimanche soir, je vous donne le menu. Menu de dimanche soir, ce sera Florian Gazan.
Oui.
Avec Ahouais. Ah ouais. Il y aura aussi Éric Brunet avec Les Salauds de l'Histoire. Et pour terminer, tu seras là avec moi pour parler de Parlons Encore, Caroline.
Et oui.
Et voilà.
Et tout à fait. Donc, on a hâte de découvrir ça. Tu te sens comment?
Je suis mis à
trois jours.
Je fais pas le malin.
À trois jours de la prise d'antenne, mon petit Paul.
Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui.
On va t'acheter une bouée avant de te jeter dans le grand bain. Ou alors un maillot, comme on fait au bébé, là, qui flotte, là.
La bouée, j'ai déjà un peu, vous inquiétez pas. elle va rester pour les vacances, en plus.
Et arrête.
Non, mais voilà. Et en plus.
Ça va bien se passer.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a appris une grande nouvelle. C'est que RTL est la première radio privée de France sur les podcasts.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous remercier parce que, il y a eu plus d'1,2 million d'écoutes sur Parlons-nous, sur les podcasts de Parlons-nous. Donc, je voulais vraiment vous remercier de nous suivre.
C'est vrai, on ne dit pas assez, moi, de mon côté, pas assez souvent à tous ceux d'entre vous qui écoutez l'émission en podcast. Voilà, on vous embrasse bien fort, on vous remercie pour votre fidélité. Et grâce à vous, RTL est première radio sur les podcasts. Donc, grâce à votre fidélité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui réagissent par mail et autres, mais après coup.
Et qui nous découvrent même en podcast, grâce au podcast.
Oui. Alors, redis-nous un peu les horaires qu'on soit là.
Parlons Podcast, c'est dimanche de 21h30 à 22h30.
21h30, 22h30, vous retrouverez Paul Delair, dimanche soir, Parlons Podcast. Merci Paul.
from Florida. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light and that Rojo.
Rojo.
D'écouter Doechi, la rappeuse américaine, qui sera en concert le 21 août prochain au festival Rock en Seine à Saint-Cloud. Et elle y chantera son tube Anxiety, que vous venez d'écouter sur RTL.
RTL. Ce vendredi, jackpot record Euromillion de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur FDJ.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Inès.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue. Vous êtes un peu intimidée.
Oh, un petit peu.
Une petite voix.
Oui, c'est la voix du soir.
C'est la voix du soir. Espoir.
De la nuit.
La voix de... Ah, vous avez... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même voix le matin et la
oui,
nuit.
Je pense.
Donc, vous avez une petite voix, vous, la nuit.
Oui.
Vous n'étiez pas endormie, quand même.
Non, pas encore. Non,
ah
non,
bon,
pas
on ne vous a pas réveillé.
Pas encore. Mais non, pas du tout, mais je suis en condition pour... Je suis dans le calme, quoi. Je suis dans le calme.
Oui,
au repos,
me parler.
Seule, voilà.
Eh bien, alors, je vous écoute attentivement. Nous aussi, on est dans le calme et prêt à vous écouter, ma chère Inès.
Merci. Voilà, je vous appelle parce que, après 10 ans de mariage.
Oui.
Et 2 enfants, j'ai quitté. Mon ex-époux et ma maison également. Voilà. Et je souhaite partager un petit peu mon témoignage.
Avec plaisir. Oui. Et,
voilà.
Et vous, et alors, vous allez nous expliquer un petit peu peut-être votre histoire de couple et qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision. C'était il y a combien de temps que vous avez quitté votre ex ?
On va dire ça fait bientôt 8 mois.
Bientôt 8 mois, d'accord.
Oui, ouais, bientôt 8 mois. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est une décision à laquelle je réfléchissais depuis bien, on va dire, 2 ans. Voilà, ça faisait bien 2 ans que ça n'allait plus.
Oui.
Et 2 ans qui ont été très compliqués pour moi. Très compliqués. Je pense que j'ai dû faire des épisodes de dépression, c'est très certain. Parce que j'étais très mal. Et au bout de ces 2 ans, j'avais l'impression de me battre seule, d'essayer de sauver mon couple seule, d'essayer de communiquer seule. J'avais affaire à pas tout simplement personne en face. J'avais l'impression d'avoir personne en face.
Ah oui, vous étiez en train de sombrer un peu seule, il ne réagissait pas.
Complètement. J'avais vraiment affaire à quelqu'un de passif.
Oui.
Mais parce que je pense qu'il est passif dans sa nature, en fait. C'est pas lié à... C'est même pas du conflit, parce que je peux même pas dire qu'on était en conflit, parce que il n'y avait pas de conflit. c'est vraiment son
sa
mode
personnalité,
de fonctionnement.
Oui.
Dans son fonctionnement, il est passif dans son fonctionnement. Mais je pense qu'il a toujours été comme ça. Ce que je disais à Paul tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'a pas changé, en fait. Il n'a pas vraiment changé depuis qu'on s'est connus. Et c'est ça. Et là est le problème pour moi.
C'est vous qui avez changé alors ?
Oui. Oui.
Il y a eu aussi les enfants entre temps.
Les enfants, il y a eu plein de choses. 10 ans, enfin, en 10 ans, j'avais, quand on s'est connus, j'avais un peu moins de 30 ans. Voilà.
Oui.
Je suis à la veille de mes 40 ans là. Donc, en 10 ans, beaucoup de choses se sont passées. Je suis devenue maman. On a eu plus de responsabilités. On a eu plus de. Voilà, on a vécu pas mal de choses qui ont fait que pour moi. Pour moi, cela s'explique que j'ai changé et que j'ai aussi mûri. Je me suis aussi assagie sur certains aspects. Mais et ben lui, avec le recul que j'ai pu prendre, voilà, sans aucune prétention bien sûr, je ne l'ai pas trouvé changé, je ne l'ai pas trouvé évolué.
Oui, ça ne vous correspondait plus.
Exactement. Ça ne me correspondait plus et vraiment, je nous voyais nous éloigner de plus en plus. Et je voyais qu'on avait de moins en moins de centres d'intérêt, de projets communs. Et même dans notre communication, quoi, c'était plus fluide, c'était très défensif, très agressif.
C'est-à-dire que c'est vrai que pendant, vous dites là, surtout avant vous êtes rencontrés, vous alliez avoir 30 ans, c'est la période de la vie, souvent on est beaucoup dans la construction, ben, d'ailleurs la construction de votre couple, vous me parlez de cette maison aussi que vous avez quittée, c'est important, enfin les enfants, donc les projets ils s'enchaînent et parfois entre le travail, peut-être l'activité professionnelle, c'est un peu un tourbillon et on ne mesure pas toujours... là, finalement, quand ça se pose un peu, là, c'est la relation, finalement, où on peut s'interroger sur cette relation de couple. Quand, une fois qu'on est sorti un peu de ce tourbillon.
Exactement. En fait, on avait ces projets communs, là, ensemble. Hein, je veux dire, on était d'accord pour construire ça ensemble, avoir nos enfants, enfin, nous marier, avoir nos enfants, puis acquérir. Enfin, c'était vraiment quelque chose de commun et qui nous animait, et sur lequel on était complètement d'accord. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas penché et on n'a pas réfléchi, et j'ai bien « on », hein. On n'a pas réfléchi sur notre relation de couple à nous. Vous voyez ?
Oui, oui. Oui, quand vous avez essayé d'en parler, c'était compliqué, en fait, parce qu'il...
Bah oui, parce qu'en fait, une fois que tout ça avait été abouti, tous nos projets avaient été réalisés, moi, ce qui commençait à m'intéresser, parce que bah, je voyais que nos enfants commençaient à grandir, à être un peu plus autonomes, et puis là, on se recentre un peu plus sur soi, et c'est ce que j'ai fait, moi. C'est quelque chose que j'ai fait en me disant, bon, bah là, les enfants sont en train de grandir, qu'est-ce qu'il en est de toi ? Qu'est-ce qu'il en est de toi, de ton couple, de cet homme qui est dans ta vie ? Et là, je me suis aperçue que je me sentais très seule. Pas soutenue.
Oui.
Mais parce que aussi, je pense, et ça c'est de ma responsabilité, je l'assume, voilà. J'ai pris beaucoup de choses sur le dos. J'ai pris le rôle, j'ai voulu être partout.
Oui, vous étiez moteur en fait, vous étiez...
Exactement. Mais ça c'est ma personnalité, je pense que je suis comme ça, c'est de ma nature. Mais ça m'a complètement desservi et ça m'a tout foutu en l'air, je pense. J'ai essayé un peu de l'épargner, entre guillemets, parce que moi j'ai un travail avec qui n'est pas pénible, on va dire, physiquement, vous voyez, un peu plus cérébral, intellectuel, avec des conditions de travail, des horaires assez souples, des conditions de travail assez agréables, on va dire, alors que lui, il avait un travail plus physique, plus pénible, donc pour moi, il était tout à fait normal que je m'occupe du foyer, des enfants, de toutes les tâches, mais ça n'a pas duré. Ça, à un moment donné, je me suis épuisée.
Et oui, forcément. Oui, forcément, à un moment, vous avez porté, et puis vous auriez aimé avoir du soutien.
Voilà. Ouais. Parce que,
mais quand le pli est pris, parfois, que l'autre, peut-être, comme vous dites, de par sa personnalité, un peu passif, à pas prendre l'initiative, il vous laissait gérer.
Ça lui allait, je pense. Ça lui allait. Oui, et puis il me voyait plutôt.
Oui, ça tournait, en fait.
Ça tournait.
Ça tournait, c'est ça.
Exactement, ça tournait bien.
Pas d'heure.
Je me plaignais pas.
Oui, c'est ça.
Enfin, même si j'étais quand même très, très tendue, très, très agressive, je pense.
Mais fatiguée, oui.
Très fatiguée. Mmh. Et puis physiquement, j'ai commencé à me négliger, forcément. Enfin, ça, forcément.
Mais ça se répercute. Ça
me douillait. Oui. J'étais pas très agréable avec les enfants, je pense. J'étais un peu tendue aussi. La maison m'épuisait, les tâches m'épuisaient, mon travail m'épuisait. Enfin, j'étais complètement. J'étais très mal, j'étais plus là. Mais lui, j'avais pas l'impression qu'il voyait ça, quoi.
Oui, même vous dites, pourtant, vous négligiez un peu. C'est-à-dire que même, enfin, sur le plan de, vous voyez, l'apparence, vous faisiez moins attention, comme quand on n'est pas bien, enfin, il n'a pas, parfois, ça peut être des signaux d'alerte, et puis, le fait que vous soyez plus irritable, mais il n'en relevait pas.
Non.
Oui, non. Parce qu'il a du mal à parler, finalement. Il amorce pas la discussion.
Pas du tout. Dans la communication. Et moi qui le suis, je comprenais pas pourquoi. J'avais besoin d'en parler. J'avais besoin de me répéter. D'ailleurs, il me disait souvent, mais toi, on parle toujours des mêmes sujets. Mais et moi, je disais, mais j'en parle parce que on ne s'est pas abordé, c'est pas traité. Et donc forcément, j'ai besoin de revenir dessus.
Vous n'aviez pas de retour, quoi. Donc vous répétiez en espérant être un jour entendu.
C'est ça. Mais j'avais affaire à quelqu'un qui se braquait au fur et à mesure, il se braquait.
C'est ça. Mais oui, parce que lui, ça l'agressait, il ne comprenait pas.
Exactement, exactement. Et je pense que je ne mettais pas les formes aussi. Hein. J'étais quelqu'un qui était très frontal, mais parce que c'est aussi ma manière d'être. J'affronte, et c'est vrai que selon qui il peut y avoir en face, ça peut être agressif, en fait. Et donc lui, se murait, en fait, dans le silence. C'est comme s'il n'était plus là, en fait. J'avais l'impression d'avoir affaire un autiste, enfin, il a une forme d'autisme, quoi, comme si.
Oui, se protéger en se repliant lui-même sur lui.
Oui.
Mais donc, ça fait 8 mois, hein, vous m'avez dit.
Oui.
Et alors, je suis frappée en vous écoutant, Inès, par la façon très, très posée, très modérée, très nuancée dont vous parlez. Non, mais c'est respectueux. Enfin, c'est rare quand on. Alors, c'est vous qui avez pris la décision, mais vous ne l'accablez pas. Vous voyez, quand vous dites, voilà, c'est-à-dire que il a, pensez-vous, ce type de fonctionnement, lui n'a pas changé, c'est vous qui avez changé, qui avez d'autres besoins et d'autres attentes.
Oui. Non, je l'accable pas.
Non, je trouve ça très. C'est rare d'entendre, surtout si près d'une séparation.
Oui, mais bon, je reviens de très loin, Caroline.
Ah bon?
Oui, parce que pendant les deux ans avant de partir, j'ai quand même été très mal. J'ai quand même. Et voilà, j'ai quand même été assez virulente. J'ai pu être virulente avec lui. Oui. Parce que j'avais envie.
De le faire réagir, peut-être.
D'être entendue et de réagir et de dire, mais fais quelque chose.
Oui.
Fais quelque chose.
Et là, c'est ce qu'on oublie parfois quand il y a des disputes ou quand il y a de l'agressivité. C'est pas toujours négatif, même si évidemment c'est jamais agréable, mais ça peut être une façon. C'est qu'on est encore dans le désir qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui évolue, d'être entendu. Le pire, c'est quand on renonce finalement. Alors, c'est-à-dire qu'à un moment,
J'ai proposé, je lui avais proposé de se faire accompagner, parce que moi-même j'étais accompagnée quand même pendant ces 2 ans-là. J'étais pas, je veux dire, tout ce cheminement, je l'ai pas fait toute seule. J'avais besoin, je pouvais pas de toute façon seule, c'était pas possible. Et donc j'ai vite compris que, voilà, on avait besoin d'aide en fait pour communiquer, parce qu'il y avait plus rien.
Oui.
Et pareil, j'ai eu affaire à une scène de non-recevoir. C'était c'est à toi d'aller te faire soigner. Moi, j'ai pas de problème. C'est toi ton problème. Enfin,
c'est un peu agressif là. Hein, vous dire ça.
Oui.
C'est-à-dire que il avait peur certainement, mais enfin, c'est quand même soigner. Mmh. C'était votre relation qui avait besoin d'être soignée par. Et comment a-t-il réagi alors quand vous, au bout de 2 ans, on voit bien que ça a été un dilemme douloureux pour vous, parce que ça impliquait vous, votre couple, tout ce que vous aviez construit, vos enfants. Donc, le plus dur, c'est parfois justement se dire d'être celle ou celui qui va faire vaciller l'édifice, quoi, qu'on a patiemment construit. Mais comment il a réagi quand vous lui avez annoncé?
Quand la première fois où je lui ai parlé de divorce, oui. Je me souviens que je suis m'asseoir en face de lui et je lui ai dit je veux divorcer, je veux partir. Oui. Et là, il m'a dit fais ce que tu as à faire.
Ah ouais, non, mais ça, c'est.
Si tu dois le faire, fais-le, fais ce que tu as à faire.
Passif là, encore, j'avais l'impression comme si.
Très passif.
Mais oui.
Et je pense même, je sous-entends, j'ai un sous-entendu, pour moi, ça voulait dire. Tu le feras pas, en fait. Montre-moi de quoi, si vraiment tu vas le faire. Enfin, montre-moi de quoi tu es capable. Parce que si, en fait, vous voyez.
Ah oui, vous l'avez vécu comme cela.
Moi, je l'ai. Oui.
Oui.
Et donc, moi, là, je lui dis.
Oui, ou peut-être résigné. Enfin, l'impression de. Oui, vous avez peut-être. Mais il y a ce côté. C'est un côté très déprimant, finalement, de se dire. Et qui peut conforter, en fait, de dire c'est peut-être la seule décision si la personne en face ne se bat pas. Mais peut-être qu'il n'est pas en mesure.
Je pense qu'il n'est pas en mesure parce que.
Tout en étant malheureux, mais il y a des personnes qui ne savent pas.
Il ne sait pas. Il ne sait pas. Tout comme il ne savait pas prendre de décision, pas d'initiative non plus.
Oui, c'est ça.
Ça venait de moi aussi. Et encore, ça, ce divorce, c'est aussi moi qui l'ai impulsé quelque part.
Vous avez impulsé beaucoup de choses.
Beaucoup, oui. Dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, oui, beaucoup de choses. Et ça aussi.
Il y a Bob White d'ailleurs qui dit, je voulais ajouter quelque chose. Il dit, on a l'impression parfois, vous êtes très maternelle, maternante quand vous parlez de lui. Elle dit, est-ce que vous aviez ce lien-là aussi?
Oui. Oui. Ça a été une erreur de ma part d'ailleurs d'avoir été, d'avoir un peu joué ce rôle de maman.
Oui, mais ça, on réalise après coup, vous savez, sur le moment.
Et du coup, là, je me rends compte qu'en fait, c'était un troisième enfant que j'avais. Et que je portais, sauf que, après, j'ai réalisé que c'était pas mon rôle de m'occuper de lui comme je le faisais, et qu'en retour, je recevais pas.
Et oui.
J'avais pas le retour, en fait.
Oui. Ben oui, il y a des moments où vous aussi, vous auriez aimé être portée, être soutenue, bien sûr.
Soutenue, entendue, rassurée. Et quand j'ai commencé à lui dire, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai besoin d'aide. Oui. Et là, il me regardait avec des grands yeux en me disant, mais où est le problème? Tout va bien, ça marche comme ça, je vois pas pourquoi tu veux changer. Et moi, il me disait, mais ça peut pas continuer comme ça. Avant, on était. En fait, il me disait, mais on a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi tu veux changer maintenant? Et moi, je disais, mais parce qu'avant, on était deux. Aujourd'hui, on est plus deux, on est quatre. Donc, et j'ai besoin d'aide. Et puis, je vois pas ma vie comme ça. Je peux pas tout porter tout le temps. Et puis, j'ai besoin de sentir qu'il y a quelqu'un dans ma vie, en fait. Parce que je suis seule. Je suis seule. Et là, il comprenait pas.
Il comprenait pas.
Et là, je me dis, mais en fait, on parle pas le même langage.
Oui. Et non. C'est très juste. Oui. Vous ne parlez pas le même langage.
Ouais. Alors qu'on se comprenait au début de notre relation, on était très complices. En fait, Caroline, tout ce qui m'a attirée en lui au début.
Oui.
C'est devenu des défauts que je ne supportais plus après, à la fin.
Mais vous savez que c'est souvent comme ça dans les couples.
Incroyable.
Oui. Non, mais on l'entend souvent dans les thérapies de couple. C'est-à-dire ce qui fait que souvent, les conjoints disent ce qui a attiré vers cette personne-là, fait que après c'est ce qu'on ne supporte plus.
Exactement.
Mais parce que ce qui attire, c'est souvent qu'on retrouve quelque chose de connu ou que l'on cherche quelque chose qui nous a manqué. Vous savez, le couple, c'est toujours une affaire d'inconscient aussi qui se rencontre. Et sur le moment, on ne sait pas pourquoi on est attiré irrésistiblement par cette personne-là. On le découvre au fil du temps.
Oui.
Ça a été tout un cheminement. On voit que vous, il y a eu un gros travail d'introspection et
énorme
et de remise en question. Comment vous allez alors vous aujourd'hui, Inès?
Eh ben, je vais très bien. Je vais merveilleusement bien.
Vous sentez.
Je ne veux pas faire la promotion.
Non, mais vous êtes.
Je ne veux pas faire la promotion du divorce ou des séparations.
Bien sûr que non.
Non, c'est pas le but.
Chaque... Mais bah non.
c'est ce que je disais à Paul tout à l'heure, je ne regrette absolument pas ma décision.
Oui.
Ce qui peut me manquer à certains moments,
oui,
c'est ma vie de famille.
Oui.
Cette ambiance là, ce cocon qu'on a construit,
oui,
avec
oui,
l'équilibre qu'on a porté à nos enfants quand même. Mais quand je repense ce par quoi je suis passée, ma douleur, ma tristesse, ma solitude, je me dis plus jamais.
Oui. Oui, parce que vous étiez très seule finalement.
J'étais très 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 malheureuse, triste, malheureuse. Alors j'avais une capacité à cacher ça aux yeux de tous,
oui,
c'était incroyable comment j'arrivais à donner le change alors que rien n'allait en moi. Mais bon, physiquement, ça se voyait quand même. J'avais pris, par exemple, 12-13 kilos, à peu près, vous voyez.
Oui, que vous avez reperdu, alors, si je comprends bien.
Pas par miracle, parce que bon, je fais pas mal d'activités, mais...
Non, mais vous êtes allégée.
Quand j'ai... Exactement. Quand j'ai pris la décision de partir.
Oui.
J'ai perdu le poids de manière complètement, sans effort, naturellement.
Ça pesait.
Ça pesait. En fait, j'avais l'impression de le porter, mais parce que j'avais l'impression de le porter, de le porter aussi, comme un boulet, quoi. Je lui avais dit, mais en fait, je te traîne comme un boulet. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que j'arrive à illustrer un peu la scène, parce que...
Oui, puis souvent ces deux ans où vous étiez mal parce que vous aviez à la fois cela, mais cette décision n'engageait pas que vous. C'est dur, quoi. On sent bien que celui qui part, c'est souvent, il faut du courage aussi pour partir. Il faut de la force pour partir. Mais en même temps, c'est très culpabilisant d'embarquer ses enfants là-dedans, de parfois ne pas avoir le sentiment d'abandonner son conjoint. Enfin bon. Et là, le plus dur, c'est à un moment quand on prend la décision, c'est qu'il y a aussi quelque chose. Qui à un moment peut s'ouvrir, se libérer et qui s'ouvre, et on l'entend dans votre façon d'en parler aujourd'hui.
En fait, aujourd'hui, je me rends compte que ma vie, enfin, au niveau de vous savez, on peut se dire, je me disais quand même, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je serai capable, est-ce que voilà, qu'est-ce qui va se passer, mes enfants, etc. Et puis après, en réfléchissant, je me disais, mais qu'est-ce qui va te manquer?